Bonjour. OK, on va commencer. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Il y a une année que je vous ai parlé pour la première fois de la Sainte Cène. Et aujourd'hui, on va un petit peu continuer. Vous vous souvenez, la Sainte Cène, c'est un repas sacrifice. Vous vous souvenez? C'est un repas spirituel qu'on prend dans le naturel, on va vraiment manger, et qui a des effets surnaturel. C'est un repas qui répond à une loi que le Seigneur a instaurée, qu'un être spirituel peut transférer ses pouvoirs, sa nature, sa mentalité, sa force dans un autre être spirituel au travers d'un sacrifice. Et nous sommes tous des esprits, nous sommes des êtres spirituels qui vivons dans un corps. Et au travers du sacrifice de Jésus, quand on mange spirituellement par la foi son corps, quand on boit spirituellement par la foi son sang, il nous transfère sa nature. Et nous, on transfère nos péchés, nos maladies, notre pauvreté, nos malédictions. Et c'est ce qui nous restaure, ce qui nous donne de la force, ce qui nous guérit, etc. C'est le Seigneur qui a institué la Sainte Cène. Ça, c'était juste pour reposer les bases. La Sainte Cène, c'est un repas extrêmement puissant. On peut vivre des guérisons extraordinaires, miraculeuses au travers de la Sainte Cène, mais à condition de la prendre selon ce que le Seigneur a mis à notre disposition. Si on prend la Sainte Cène avec notre tête, avec nos compréhensions intellectuelles, ça va rien faire. On est obligé d'être positionné d'une certaine manière pour pouvoir en bénéficier. Pour vous encourager, dites-vous que Jésus n'a pas institué la Sainte Cène pour rien. Il ne fait pas les choses pour rien. Donc s'il l'a fait, si dans plein de versets, il nous répète les choses, il dit « Faites ceci en mémoire de moi. Si vous ne mangez pas mon corps, je ne peux pas demeurer en vous. Si vous ne buvez pas mon sang, je ne peux pas demeurer en vous. Chaque fois que vous prenez ce repas, vous annoncez mon retour. » il y a plein de versets qui parlent de ça. Il nous exhorte à persévérer dans la fraction du pain, à persévérer dans ce repas. Et persévérer, ça ne veut pas dire je le prends le plus souvent possible. Ce n'est pas dans ce sens-là. Des fois, on persévère dans quelque chose parce qu'on n'arrête pas de le faire. Mais c'est aussi persévérer avec ma foi. OK, aujourd'hui, j'ai compris une petite partie. Je vais être touché une petite partie. Mais je persévère. Je mets ma foi en action pour que ça grandisse. Et à force de répéter ces choses-là et de persévérer dans notre foi, dans le fait de mettre les prescriptions de Dieu en action, c'est là qu'on va commencer à voir les effets. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Un aspect de la table du Seigneur est de tenir à distance nos adversaires, comme si c'était les facteurs externes à notre vie. Mais ce repas nous est aussi offert lorsque nous avons des problèmes internes, lorsqu'on est affecté dans notre intérieur. Aujourd'hui, moi, j'aimerais vous voir restauré, j'aimerais vous voir guéri, j'aimerais vous voir transformé au travers de ce repas, parce qu'il est là pour ça. Alors, on va prendre un exemple pour voir comment mettre notre foi en action. Et je vais vous parler de quelqu'un qui a plutôt mal commencé dans sa vie. Alors, juste un verset pour le départ, pour poser le contexte en vitesse, dans 2 Samuel, chapitre 4, verset 4. Jonathan, fils de Saül, du roi Saül, avait un fils perclus des pieds. Âgé de 5 ans, lorsqu'arriva de Jizréel la nouvelle de la mort de Saül et de Jonathan, sa nourrice le prit et s'enfuit. Et comme elle précipitait sa fuite, il tomba et resta boiteux. Son nom était Méphibosheth. Méphibosheth a mal commencé dans la vie. Il a été lâché. Alors, moi, je vous propose d'aller lire l'histoire de Méphibosheth. Concentrez-vous, je vais vous lire tout le chapitre. Accrochez-vous. 2 Samuel 9. David, le roi David, dit: Reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Il y avait un serviteur de la maison de Saül, nommé Tsiba, que l'on fit venir auprès de David. Le roi lui dit: Es-tu Tsiba? Et il répondit: Ton serviteur. Le roi dit: N'y a-t-il plus personne de la maison de Saül pour que j'use envers lui de la bonté de Dieu? Et Tsiba répondit au roi: il y a encore un fils de Jonathan, perclus des pieds. » Le roi lui dit, « Où est-il ? » Et Tziba répondit au roi, « Il est dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lodébar. » Le roi David l'envoya chercher dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lodébar. Et Mephibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, vint auprès de David, tomba sur sa face et se prosterna. David dit, « Mephibosheth !» Et il répondit, « Voici ton serviteur. » David lui dit, « Ne crains pas, car je veux te faire du bien à cause de Jonathan, ton père. Je te rendrai toutes les terres de Saül, ton père, et tu mangeras toujours à ma table. » Il se prosterna et dit, « Qu'est ton serviteur pour que tu regardes un chien mort tel que moi ?» Le roi appela Tziba, serviteur de Saül, et lui dit, « Je donne au fils de ton maître tout ce qui appartenait à Saül et à toute sa maison. Tu cultiveras pour lui les terres, toi, tes fils et tes serviteurs, et tu feras les récoltes, afin que le fils de ton maître ait du pain à manger. Et Mephibosheth, fils de ton maître, mangera toujours à ma table. » Or Tziba avait 15 fils et 20 serviteurs. Il dit au roi, « Ton serviteur fera tout ce que le roi, mon seigneur, ordonne à son serviteur. » Et Mephibosheth mangea à la table de David comme l'un des fils du roi. Mephibosheth avait un fils nommé Mica, et tous ceux qui demeuraient dans la maison de Tziba étaient serviteurs de Mephibosheth. Mephibosheth habitait à Jérusalem, car il mangeait tous les jours à la table du roi. Il était boiteux des deux pieds. Mephibosheth était perclus des deux pieds, et il mangeait à la table du roi. Perclus. Ce mot, ça fait un mois qu'il tourne dans ma tête. Ça veut dire quoi, perclus ? Perclus, c'est frappé, battu, abattu. Certainement que les pieds de Mephibosheth ou ses chevilles ont été cassés pendant la chute. Donc, à l'époque, sans opération, il avait 5 ans, tous les os encore tout mous se sont recollés comme ils pouvaient, pas bien. Donc, ils étaient tout déformés, ils n'arrivaient plus à supporter le poids de Mephibosheth. Donc ça a eu pour conséquence des souffrances physiques, un statut social rabaissé, une espérance de vie terne et honteuse. D'ailleurs, le texte nous dit bien dans quel état était Mephibosheth. Au verset 4, il est dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lodébar. Mephibosheth était perclus des deux pieds dans la maison de Makir, à Lodébar. Makir. Ça veut dire vendu. Lodébar, ça veut dire sans pâturage ou sans parole. Donc Mephibosheth, perclus des pieds, battu, frappé, abattu, vivait chez un vendu, là où c'est désertique. Il dépendait d'un homme, d'un bienfaiteur, qui lui était quand même mal pris puisque vendu. Donc Mephibosheth était sans perspective d'avenir et toute sa descendance héritait de sa condition. Il avait beau être le fils de Jonathan, le petit-fils de Saül, sa condition était déplorable. Il y a eu un accident. Mephibosheth n'a pas choisi d'être perclus des pieds. Vous n'avez pas choisi votre nature de péché. Vous n'avez pas choisi la souffrance. Vous n'avez pas choisi d'être perclus de quelque part. Vous n'avez pas choisi d'être perclus du cœur. Vous n'avez pas choisi d'être perclus du corps. La chute, celle d'Adam, a été le pire accident de toute l'humanité. Le contexte dans lequel s'est retrouvé Mephibosheth, c'était comme le nôtre, après que nos premiers parents nous aient vendus au diable et avant que nous rencontrions Jésus. On était dans un endroit désert, inhospitalier, sans parole créatrice, sans bénédiction, sans nourriture spirituelle, dépendant, infirme, honteux, inutile, sec, terne, continue la liste. Et aujourd'hui, pour certains d'entre nous, bien que nous sommes sauvés, bien que nous soyons nés de nouveau, nous savons dans notre intérieur qu'il y a encore des choses qui sont perclues. Des fois, on est encore perclus d'un pied, parfois des deux. Et parfois, on se dit « Non, ça, c'est pas pour moi. Moi, je vais bien, je suis restaurée, ça va bien. Amen. » Mais pour que vous puissiez quand même bénéficier du message et bénéficier du repas, je vous pose deux questions. La première, est-ce que vous connaissez votre Seigneur? Est-ce que vous connaissez assez Jésus? Est-ce que vous avez fait le tour? Est-ce qu'il n'y a plus rien à connaître? Mais je passe quand même à la deuxième question. Si vous vous dites, mais moi, je le connais quand même déjà bien, ma vie va bien, c'est cool, gloire à Dieu. Est-ce que Jésus vous connaît? Est-ce que vous vous êtes laissé faire connaître par Jésus? Est-ce que toutes les petites parcelles de votre être ont déjà été visitées par Jésus? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qu'il aimerait encore mettre en lumière, qu'il aimerait encore restaurer, qu'il aimerait bénir, qu'il aimerait vous enseigner? Même quand on va bien, et ça c'est vraiment gloire à Dieu parce que c'est le but, on a tout à bénéficier de ce repas parce que Jésus vient demeurer en nous et il a vraiment beaucoup, beaucoup de choses à nous donner. Je continue l'histoire de Méphibosheth. Au verset 8, on voit qu'il était vraiment mal barré et il en était conscient. Il se prosterna et dit « Qu'est ton serviteur pour que tu regardes un chien mort tel que moi ?» Cette expression, le chien mort, c'est vraiment la pire expression qu'on pouvait trouver pour décrire un état. Donc vraiment, il se dépréciait d'une manière terrible. Il avait une bien piètre image de lui-même. Donc il se présente devant le roi. Quand le roi l'appelle, il répond Méphibosheth, mais avec sa nature non restaurée. Il voit que ce qui ne va pas. Il ne voit pas qu'il est le fils de Jonathan. Il ne voit pas qu'il est le petit-fils de Saül. Il ne voit pas que son père avait une alliance avec le roi. Il ne voit pas qu'il y a de l'espérance pour son avenir. Donc, il n'a pas compris son identité. Dans Jean 10:10, il nous est dit, la première partie du verset, « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. » Et nous sommes tous concernés par cette réalité. Nous avons tous un peu de Méphibosheth en nous. Nous savons tous avec quoi nous luttons, que ce soit physique, que ce soit psychologique, émotionnel, relationnel, on le sait. Celui qui nous a vendus, le diable, il nous vole, il nous lèse, il nous blesse. Parce que son but, c'est de détruire. C'est de détruire tout ce que Dieu a fait. Et la couronne de la création, c'est nous. Alors, ce qu'il veut détruire, c'est la couronne de la création. Donc, toutes nos affections, quelque part, elles sont normales. Elles ne sont pas voulues par Dieu, mais elles sont normales. Seulement, regardez la suite du verset. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, Jésus, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles l'aient en abondance. Dieu n'envoie pas la maladie. Il n'envoie pas le mal. Il n'envoie pas la douleur. Il n'envoie pas les épreuves. Il n'envoie pas les problèmes, etc. Mais au contraire, Jésus est venu sur terre pour nous sortir de tout ça, pour nous délivrer, pour nous restaurer, pour nous guérir, pour nous bénir, pour nous protéger. C'est ça son mandat. Il n'est pas divisé, Jésus. Notre Dieu est un Dieu de vie, d'abondance, et il cherche qui veut être restauré, parce qu'on a toujours le choix. Regardez au premier verset. David dit « Reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan ?» À cause d'une alliance. Reste-t-il encore quelqu'un? Y a-t-il quelqu'un de plus? Y a-t-il... J'ai déjà béni, j'ai déjà fait tout ça, mais ça ne me suffit pas. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un? Est-ce qu'il y a encore quelqu'un dans cette église qui a besoin d'être restauré? Est-ce qu'il y a encore quelqu'un ici qui se dit, ben, c'est pour moi, j'en ai besoin? Est-ce qu'il y a encore quelqu'un qui est dans une position de foi que Jésus est venu donner la vie en abondance? Dieu nous cherche. Il aimerait ajouter à sa bonté. C'est, en fait, c'est toute son essence. Il est comme ça, c'est son être. C'est lui qui il veut bénir, ça transparaît, ça déborde. Il est comme ça. Dans 2 Samuel 9:7, David lui dit « Ne crains pas, car je veux te faire du bien à cause de Jonathan, ton père, à cause de ton identité, à cause de l'alliance que j'ai faite. » Je te rendrai toutes les terres de Saül, ton père, et tu mangeras toujours à ma table. Donc le roi rend les terres de Saül à Méphibosheth, comme Jésus nous restitue tout ce qui nous a été volé. Et ça, c'est une vérité qu'il faut s'approprier. Jésus est venu donner la vie en abondance. Ce que Satan nous vole, ce n'est pas des biens matériels. Oui aussi, ça peut, Tout ce qui peut voler, il va le faire. Mais il nous vole des vérités. Il nous fait croire à des mensonges. Des mensonges qui déforment notre mentalité, qui nous font croire des trucs qui nous rendent captifs, qui nous empêchent de progresser, qui nous empêchent de recevoir une guérison, qui nous empêchent d'avoir des relations saines, qui nous privent de la paix, qui nous empêchent d'avoir des facilités de relations, ou bien qui nous empêchent d'avoir un travail, un conjoint, etc. Tout ce que Satan peut voler, c'est ça. Donc il est grand temps de comprendre que notre Père, le Dieu créateur, le Roi sauveur, veut nous restaurer tout ce qui nous a été volé. La vérité, la joie, la santé, des relations saines, l'intelligence, tout ça, on peut le recevoir au travers de ce repas parce que c'est Jésus, c'est au travers de Jésus. Tout est à disposition. Mais nous avons un rôle à jouer. Si j'attends, Seigneur, donne-moi toutes tes promesses. Je peux attendre longtemps. Il ne va rien se passer. Parce que je dois me mettre en action. C'est dans Jacques où il a dit « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. » C'est à nous de dire « Ok Seigneur, je veux ce que tu me donnes. » Mais il ne va jamais nous forcer. Ok, le roi vous appelle. Vous êtes tous perclus. Mais ce n'est pas un problème. Il est temps de se lever, de changer de mentalité. Il faut qu'il y ait un truc dans les entrailles là qui se lève. Et que maintenant on se dise, ok, c'est pour moi, j'y vais. Vous vous souvenez, Jésus, une fois, il a croisé un paralytique de longue date, 38 ans. Oui. Puis il lui a dit, veux-tu être guéri? Veux-tu être guéri? Alors réveille-toi. Lève-toi. Mephibosheth a accepté l'invitation du roi. Il a répondu à l'appel. Il s'est présenté devant lui. Il était conscient de son état, mais il est passé outre sa honte. Il a pleinement bénéficié de ce qui lui était offert. D'ailleurs, Mephibosheth, vous savez ce que ça veut dire? Mephibosheth, ça veut dire exterminant la honte. Samuel 2:9. La deuxième partie du verset 11. Et Mephibosheth mangea à la table de David comme l'un des fils du roi. Comme l'un des fils du roi. Au premier degré, on pourrait se dire, comme tous les jours les fils du roi mangeaient à la table de leur père, ben, pareillement, Mephibosheth, tous les jours, il allait manger à la table du roi. Ça, c'est premier niveau, premier degré. On pourrait se dire, considéré comme un fils du roi, Mephibosheth mangeait tous les jours à la table du roi. Et moi, il me semble que ce qu'on pourrait dire aussi, c'est selon sa nouvelle mentalité, comme l'un des fils du roi, c'est-à-dire conscient de son identité, affermi dans son cœur, avec assurance, je suis la fille du roi et je mange tous les jours à sa table parce que c'est mon privilège, parce qu'il me l'a donné et parce que j'ai un lien légitime avec mon père. Mephibosheth s'est positionné. Il s'est positionné dans son identité de fils de roi, avec tout ce que ça représente comme privilège. Et au verset 13, le dernier verset, Mephibosheth habitait à Jérusalem, car il mangeait tous les jours à la table du roi. Pour pouvoir être à la table du roi tous les jours, Mephibosheth a déménagé. Il a déménagé, il a quitté Makir. Il a quitté Lodbar. Il a quitté son identité de vendu au diable, de pauvre victime. Il a quitté son désert spirituel, son désert physique, son désert émotionnel, son désert social. Il a quitté son ancienne vie, les mensonges qui l'empêchaient de se saisir la vérité sur sa vie. Et il a accepté, il a reçu celle que le roi lui offrait. À Jérusalem, il y a une table qui est dressée pour moi. Et je vais bien en profiter. Ciao Makir. Ciao Lodbar. Moi, je vais à Jérusalem. La vie de Mephibosheth a radicalement changé. Il est devenu citoyen de la ville royale. de dépendant d'autrui qu'il était, il s'est retrouvé pourvoyeur de travail pour son serviteur Tsiba, ses 15 fils et ses 20 serviteurs. Et je pense que tout ce monde était marié, avait une ribambelle d'enfants ou même de petits-enfants, et tout ce monde a bénéficié et a mangé à sa faim. Donc en plus d'être béni, Mephibosheth a béni. Il a porté du fruit en abondance. Vous avez tous à gagner à être transformés par le Seigneur. Mais votre entourage a à gagner à ce que vous soyez transformés. Donc notre mentalité et surtout notre capacité à changer de mentalité est déterminante dans notre transformation. Elle est déterminante dans notre restauration. Elle est déterminante dans notre progression spirituelle, dans la puissance, dans l'efficacité de nos dons. C'est en grande partie l'œuvre du Saint-Esprit de nous changer, de changer notre mentalité, mais nous, on doit faire notre part, on doit se mettre en chemin. Je dois me positionner en tant qu'enfant de Dieu et je dois saisir les vérités de la parole. Quand le Seigneur me dit, quand tu manges ce pain, que tu l'as sanctifié, que tu proclames que c'est mon corps, que spirituellement c'est mon corps, je viens demeurer en toi, quand il me dit ça, moi je dois le croire. Mais pas seulement avec ma tête, il faut que ça descende au plus profond de mon entendement. Je décide que je crois et je me positionne dans la foi. Et c'est ça qui va changer les choses. Et quand je commence à lire la parole, je prends les versets et je les applique à ma vie. Et je les proclame, parce que plus je les proclame, plus ma foi est entraînée et plus j'arrive à les saisir. Et quand je prie dans ma vie de prière, je mets aussi ça en action, je change ma mentalité et je sais déjà que je suis exaucée et je prie de cette manière-là. Et il y a les choses, les circonstances qui commencent à se mouvoir et le Seigneur aplanit les choses. Il faut déménager. Fini les « oui, mais moi, de toute façon, ça fait tellement longtemps. J'ai tellement prié pour ça. Ouais, mais moi, tu vois, c'est pas pour moi, c'est pour les autres. Oui, mais moi, j'ai loupé tel rendez-vous quand il y avait tel serviteur de Dieu qui est venu. Et puis, Mais non, il faut changer cette mentalité. Jésus, il est partout. Jésus, il ne change pas. Jésus, il est puissant. Il faut changer de mentalité. Dire, oui, mais moi, j'ai un Dieu vivant. Et je saisis ce qu'il m'a donné. Je me positionne. Je déménage. Il faut arrêter de voir l'obstacle et stagner. Il faut voir au-delà de l'obstacle. Un peu comme Ritz tout à l'heure nous a dit de voir mais toutes les situations impossibles dans nos familles. Souvent dans notre parcours, bien sûr, on veut ces choses. On veut. Il y en a dans votre cœur, vous êtes en train de dire, c'est bien beau tout ce qu'elle dit, mais moi, j'ai toujours un mur devant moi. Mais tant que tu regardes ce mur, il ne va rien se passer. Mais si tu regardes à Jésus qui est derrière le mur, c'est Jésus qui fait s'écrouler le mur. Toi, tu ne sais pas comment. Peut-être que ce sera une brique après l'autre. Puis il faut avoir de la patience, il faut persévérer. Peut-être que c'est un coup de bulldozer dedans. Peut-être que c'est d'autres personnes qui vont venir aider à enlever les briques. Moi, je ne sais pas. Mais si toi, tu regardes à Jésus qui est derrière le mur, les circonstances vont changer. C'est ça aussi, changer de mentalité. Jésus nous a donné les moyens. Il faut vraiment, vraiment les saisir. Le dernier verset, Mephibosheth habitait à Jérusalem car il mangeait tous les jours à la table du roi. Il était boiteux des deux pieds. Mephibosheth était toujours perclus des deux pieds, même à Jérusalem. Mais ça n'est plus ce qu'il a considéré. Il n'a plus considéré les obstacles. Il n'est pas resté dans son ancienne mentalité de pauvre chez un mortel que moi. Mais malgré les circonstances, il a mangé tous les jours à la table du roi et sa vie a radicalement changé. À la table du roi Mephibosheth, il a été nourri. Il a été nourri tous les jours. Il a été nourri par le roi, comme le Seigneur veut nous nourrir. Mais il y a autre chose. À la table du roi, Mephibosheth bénéficiait de la présence du roi tous les jours. Tous les jours, Mephibosheth se tenait devant le roi. Vous comprenez? Que ce soit ici ou que ce soit chez vous tout seul, quand vous prenez ce repas, vous vous tenez dans la présence du Dieu vivant. Est-ce que ça ne va pas changer votre vie, ça? Et pour conclure, pour parler comme Alain, je termine. Il faut que je fasse gaffe parce qu'il va écouter. Mephibosheth avait un fils, Mika. Mika, c'est un diminutif de Michaël qui veut dire « qui est comme Dieu ?» Qui est comme Dieu pour terrasser nos ennemis? Qui est comme Dieu, ce Dieu qui t'invite à sa table et qui te met au défi de saisir ses réalités pour voir ta vie changer? Qui est comme Dieu pour déverser sa puissance dans ta vie, pour te guérir, pour te transformer, te bénir, t'instruire? Mes amis, il est temps de répondre à l'appel. Il est temps de répondre à l'invitation du roi. Il est temps de déménager, de prendre conscience de votre identité en Dieu et de bénéficier de ses privilèges. Il est temps aussi de désirer être changé. Il est temps de désirer connaître le Seigneur davantage. Il est temps de désirer d'être connu du Seigneur. Il est temps de désirer d'être une source de bénédiction et de porter du fruit en abondance. Il est temps d'honorer le roi en recevant de lui ses cadeaux qu'il vous a préparé. C'est l'honorer que de dire oui. Quand vous refusez un cadeau, quelqu'un qui vient tout content avec un cadeau, puis dit non, 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 merci. C'est pas ça, honorer la personne. Il est temps de honorer votre roi. Recevez les cadeaux qu'il vous a donnés. Le Seigneur nous a invités à sa table et nous a dit que tout est prêt. Parce que tout est accompli. Alors je vous encourage à maintenant prendre le temps de vous positionner, de saisir toutes ces choses-là et de prendre une décision dans votre cœur. Oui, dans tel domaine, je suis perclue des pieds, mais je me lève, je réponds. Je réponds à l'appel, j'extermine ma honte, je ne vois pas le mur, je vois Jésus et je bénéficie de ce repas. Seigneur Jésus, je te remercie pour ton sacrifice. Je te remercie parce que c'est parce que tu as été obéissant jusqu'à la mort même, jusqu'à la mort de la croix, pour nous restaurer, pour nous sauver, pour nous bénir, pour nous relever, pour te glorifier dans nos vies, pour que nous soyons la lumière du monde, le sel de la terre, pour que nous portions du fruit en abondance. Merci Père de nous avoir donné Jésus, merci parce que c'était ton idée. L'œuvre de la croix, c'était ton idée. Et merci Saint-Esprit pour la puissance de ta force que tu as déversée, que tu as manifestée en Jésus par la résurrection. Merci parce que ce pain que nous prenons, c'est un pain qui est dépourvu de tout péché, de toute maladie, de toute malédiction, de toute pauvreté. Merci pour ton corps ressuscité. Merci pour ton sang qui nous lave, qui nous purifie, qui nous réconcilie, qui nous libère, qui nous rapproche du Père. Merci pour ton sang, parce que ton sang, c'est la vie en abondance. Merci parce que quand on prend ton repas, tu viens demeurer en nous. Saint-Esprit, je te demande maintenant de toucher les cœurs de chacun d'entre nous parce qu'on a besoin d'aide. On a besoin que ces compréhensions passent de la tête à notre cœur, à notre esprit, à nos entrailles au plus profond de nous-mêmes. Je te demande tes révélations, Saint-Esprit, que ça fasse son œuvre en nous. Et je te demande des vies restaurées. Je te demande aussi de nous montrer à chaque fois qu'on est dans de la religiosité ou dans du légalisme, que nous soyons libérés pour prendre ce repas où que nous soyons, que ce soit seul, que ce soit en groupe, que ce soit à l'église ou bien pas, chaque fois que nous en avons besoin, chaque fois qu'on sent que tu nous appelles à nous rapprocher de toi, à t'inviter à demeurer en nous, donne-nous cette liberté de prendre ce repas et d'en bénéficier pleinement. Enseigne-nous tes voies, Seigneur. Enseigne-nous à augmenter notre foi. Viens nous donner les révélations dont on a besoin. Seigneur, je bénis ton nom. Merci Seigneur. Merci pour la puissance de ta résurrection. Merci pour ce repas. Merci pour la table du roi. Je te bénis Seigneur. Amen. Amen.